Le thème de ce dimanche, avec les lectures, c'est l'humilité. Et l'Écriture nous indique que l'humilité est le secret de Dieu, le secret des amis de Dieu, le secret de l'équilibre. Bien sûr, le don le plus important, c'est l'amour, mais que serait un amour qui n'est pas humble? Il serait simplement domination, comme l'envisageait Jean-Paul Sartre en disant que l'amour est une autre manière de faire la guerre, d'inviter celui qui va dominer, celui qui va prendre le pas. Or, il en va tout autrement et, bien sûr, il faut que nous ayons une idée claire de ce qu'est l'humilité. Elle ne ressemble à rien à cette pusillanimité qui est tellement fréquente aujourd'hui chez les chrétiens. Et vous savez, de dire quand on vous propose de faire quelque chose, de « oh non, vous savez, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible, etc. Non, ce n'est pas… » Et puis, qui est simplement dérobade. L'humilité… Ce n'est absolument pas ça, c'est même plutôt une sorte d'orgueil inversé, parce que dans ce cas-là, nous nous regardons. Or, l'humilité, c'est précisément la grâce de ne pas se regarder soi-même. Vous savez bien, Saint-Pierre, invité à marcher sur les eaux, au moment où il se regarde, c'est fini, il coule. Mais s'il fixe les yeux sur Jésus, si son regard rencontre celui de Jésus, alors il marche. Et le Seigneur le soutient et lui fait accomplir d'ailleurs de grandes choses. Car l'humilité n'est pas contraire aux grandes choses. La reine de l'humilité, la Vierge Marie, elle est dans l'Église vraiment l'humble servante, la plus humble, la détentrice, j'allais dire, de la clé de l'humilité. Et pourtant, voici la servante, l'humble servante du Seigneur. Et pourtant, dans le verset suivant, elle n'a pas peur de dire « Le Seigneur fit pour moi de grandes choses. Toutes les générations me diront bienheureuse. » Ben, elle ne manque pas d'air, vous allez me dire. Seulement, c'est la vérité. Car l'humilité, dont le mot vient de l'humus, la terre, cette terre qui est féconde, cette terre, l'humus, c'est la terre qui est où il y a toute la possibilité de germination, eh bien, l'humilité, elle est simplement accepter la vérité. La vérité de ce que nous sommes. Bien souvent, notre grande difficulté dans notre vie, toute simple, dans notre vie relation, dans notre vie avec nous-mêmes, dans notre vie avec Dieu, dans nos relations avec Dieu, souvent c'est très marqué dans nos prières, nous n'acceptons pas cette réalité. Et nous prions Dieu pour que ce soit autrement. Suivant nos rêves. Et alors on invoque Dieu et on lui demande de faire le rôle de Deus ex machina, hein, qui vient combler les trous qu'il y a dans le monde et faire marcher les choses qui ne marchent pas, pour que ce soit, entre parenthèses, suivant notre volonté. Or, c'est peut-être l'image d'un Dieu tout-puissant qu'on veut s'imaginer, et la tentation est grande d'ailleurs d'invoquer Dieu et de cette force de Dieu qui va tout rétablir, qui va mettre les choses dans l'ordre que nous avons inventé, que nous tirons suivant notre lecture des Écritures, mais que nous voudrions que ce soit comme ça, et du coup, on n'a pas peur même d'invoquer la religion pour la violence, pour imposer notre pouvoir. Or, chez Dieu, il en est de toute autre manière. Et l'humilité est simplement une imitation, une suite de Dieu lui-même. Vous vous souvenez de cet hymne des Philippiens que dans l'office on chante tous les samedis soirs. Lui qui était de condition divine, égal à Dieu, il n'a pas saisi comme une proie le fait d'être Dieu, d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé, il s'est anéanti lui-même en se faisant homme, serviteur, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il ne veut pas nous aborder, lui le Dieu Tout-Puissant et nous les hommes pécheurs, de haut, nous commandant ce qu'il faut faire. Il va nous inviter, nous relever. Il va venir dans notre humanité, à côté de nous, à notre place. Il va prendre sur nous le péché et nous inviter à grandir. Dieu, j'allais dire, ne fait pas abstraction de notre faiblesse, du mal, des péchés qui sont en nous. Mais il ne se laisse pas limiter par elle. Car notre réalité, c'est celle de notre faiblesse, mais celle aussi de la beauté de la création, du geste créateur dans lequel Dieu nous a fait naître. Et pour Dieu, ce n'est pas aboli. Et nous savons bien que si nous voulons vivre un peu de ce message de l'Évangile, de la charité, d'aimez-vous les uns les autres, nous avons besoin de nous voir et de voir les autres, non pas simplement avec nos blessures, avec nos péchés, avec le mal, mais aussi avec le poids de gloire, avec le dessein bienveillant dans lequel le Seigneur nous a appelés, qui est d'être comblé des bénédictions spirituelles, d'être des images de son Fils, de reproduire en nous eh bien, cette vie et cette gloire du Fils. Et dans les relations fraternelles, je vous disais, eh bien, nous sommes appelés à voir, à accueillir la présence de Dieu aussi dans l'autre, en nous aussi, sans se faire d'illusions sur ce que nous sommes. Ce n'est pas cela. Mais justement, c'est parce que nous sommes pécheurs qu'il est venu, qu'il nous a aimés, qu'il est venu à nous et pour nous relever. Alors cette humilité, elle demande d'accepter, oui, notre réalité et de découvrir aussi les dons que le Seigneur a fait à chacun d'entre nous pour que nous puissions les faire fructifier. Et vous savez bien, cette humilité et du Seigneur, dans l'hymne que je vous citais tout à l'heure, des Philippiens, à cause de cet anéantissement, à cause de ce dépouillement, à cause de ce fait de coller à notre réalité, c'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom. Et ce « c'est pourquoi », c'est lui qui est important. Notre acceptation de notre condition, à la fois de pécheur et, comme dirait le pape François, de pécheur pardonné, de pécheur aimé, relevé par le Seigneur, elle nous ouvre des horizons absolument extraordinaires. Et on voit comment cela fructifie dans la vie des saints, hein, qui peuvent porter du fruit et du fruit en abondance. Et vous savez bien que dans l'Évangile, nous sommes tous appelés à porter à notre mesure, suivant notre espèce, comme dirait le texte de la création, pour chaque créature vivante, eh bien, que nous puissions porter un fruit infini, un fruit de gloire. Cette humilité, elle nous demande, elle nous est montrée aussi ici dans le texte de l'Évangile de Saint-Luc, avec cette histoire de place. Je suis toujours quelque peu chagriné Quand les gens viennent me voir et que ils se posent, dans les groupes, les personnes se posent la question, mais quelle est ma place? Quelle est ma place dans la famille? Quelle est ma place dans mon couple? Quelle est ma place dans ma communauté? Quelle est ma place dans ma paroisse? En sentant que nous risquons souvent de vouloir, nous rêvons de prendre une place. Mais ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il indique? Ce n'est pas simplement une question de politesse, une question de savoir-vivre, comme l'avaient déjà annoncé les livres de sagesse, qui ont des passages à peu près similaires à celui-ci. Mais ici, chez Saint Luc, eh bien, c'est un passage qui, vous voyez, qui parle des noces. Et quand on parle des noces, c'est tout de suite les noces du royaume, les noces de l'agneau, c'est-à-dire de notre entrée dans le royaume. Si nous voulons ravir notre place, la prendre, inventer le personnage auquel nous rêvons et que nous devons accéder, eh bien, nous ne sommerons pas dans la logique du Seigneur, car les dons du Seigneur, nous ne le prenons pas, nous sommes appelés à les recevoir. Vous vous souvenez de ce vieil adage, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Il n'y a qu'une chose peut-être qui nous est propre, c'est notre péché, le mal que nous sommes capables de faire. Mais tout le reste, notre vie, notre tempérament, nous l'avons reçu. Il s'est sculpté, bien sûr, dans notre histoire. Mais cela nous est donné comme un don de Dieu. Vous me direz, oui, mais ma vie, mais la vie de notre monde, c'est le tohu-bohu, c'est le chaos, c'est... Oui, mais l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de faire de nous des idoles, des belles sculptures. L'œuvre du Seigneur, c'est de nous créer, de nous recréer. Vous vous souvenez, dans la Genèse, quand on parle du chaos originel, il y a l'Esprit Saint qui volette, qui plane, qui volette au-dessus des eaux. Et en araméen, le texte a un verbe qui dit, mais il couve. Il est là, au-dessus, et il est porteur de la parole de Dieu qui vient de mettre de l'ordre pour faire une création belle. Et quand on parle de la création de l'homme et la femme, on dit même que c'est très, très beau, très, très bon. Et notre vie, nous la recevons. On aimerait bien une autre vie, mais nous avons la nôtre. Et si nous la recevons, et recevons en même temps la grâce, le regard du Seigneur, ce regard d'espérance, ce regard de grâce, ce regard d'amour du Seigneur, alors nous allons nous relever. Le Seigneur va nous constituer petit à petit. Et c'est tout le rôle de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle, de notre vie, du combat spirituel, de notre vie, pour que nous nous laissions façonner, non pas suivant la logique du monde, mais suivant cette logique du Seigneur qui nous appelle à partager sa grâce et sa gloire. Dans la deuxième petite parabole qui est donnée, parce qu'on appelle ces petits récits des paraboles, justement, c'est parce que ça parle du royaume, eh bien, et ça nous donne la direction de notre vie. On parle encore de ce, quand tu donnes, et on va au cœur de l'évangile, quand tu donnes un dîner, n'invite pas tes amis, ceux qui peuvent te rendre. Ce n'est pas une histoire, comme je vous disais au début, de politesse. Mais invite ceux qui ne peuvent pas te rendre. Et voyez, avec ça, on est au cœur de l'évangile, au cœur de la catéchèse fondamentale de Jésus, dans cette catéchèse sur la montagne qui s'ouvre par les béatitudes, avec ce très beau texte. Vous savez qu'on a le mercredi des cendres, hein, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, Et vous voyez bien que ça prend toute notre vie, toute notre vie de relation, le jeûne, la relation avec nous-mêmes, l'aumône, la relation avec les autres, la prière, la relation avec Dieu. Ne le fais pas suivant le regard des hommes. Ne le fais pas pour la galerie. Ne le fais pas pour te constituer une place. Mais fais-le parce que, en conscience, tu sais que c'est bien de le faire. Et c'est tout notre travail intérieur, pour ne pas faire les choses en fonction du jugement des autres, en fonction des louanges ou des critiques des autres, mais le faire parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, le désir de gloire du Seigneur pour nous. Alors, eh bien, quand tu donnes un déjeuner, n'invite pas tes amis, mais la traduction ici est au contraire, quand tu donnes une réception, bon, la nouvelle traduction a des avantages quelquefois, et ici, elle a un peu un désavantage, parce qu'une réception, bon, on va donner une réception, mais une réception, la réception des noces, c'est-à-dire quand tu donnes un festin. Alors invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ces quatre catégories de personnes sont traditionnellement dans la Bible, eh bien, les gens exclus. Exclus soit par leurs conditions de handicap, soit parce qu'ils sont mal pris dans la vie, les pauvres, etc. Et c'est ceux qui sont exclus, ça remonte à une vieille malédiction de David quand il a pris la ville de Jébus, devenue Jérusalem. Hein, où il, parce qu'on les avait dit, oh, même les aveugles, les estropiés, ils vous repousseront. Alors, du coup, ils étaient exclus dorénavant depuis dans le temple, exclus de la communauté, exclus même de la ville de Jérusalem à certains moments. Alors que le Seigneur dit, mais non, si tu donnes à ceux qui ne peuvent recevoir, alors tu seras comme le Seigneur. Alors, tu seras bâtisseur du royaume. Alors, tu seras avec un cœur doux et humble, comme dit le petit Antienne de l'Alléluia, tu pourras vraiment partager, être acteur du royaume. Demandons au Seigneur, demandons à Marie de grandir dans cette humilité, d'apprendre à recevoir le don de Dieu et à le faire grandir, bien sûr, avec la grâce de Dieu, pour que nous puissions réaliser pleinement notre vie chrétienne, notre vie humaine. Amen.